Mike, I knew.
Bon. On va être pogné.
Tu vas venir?
Peut-être.
OK.
Peut-être.
OK.
Hey, on reçoit aujourd'hui Guillaume Dulude. On a dit la semaine passée qu'on attaquerait un sujet qu'on traîne depuis quand même une couple de semaines. Guillaume avait lancé l'idée, pour ceux qui ne connaissent pas Guillaume Dulude ou qui viennent d'arriver à Boulevard, dans l'open mic, il est docteur en neuropsychologie, étudie, pratique, enseigne la psycho de la communication, l'influence interpersonnelle, fondateur de Psycom, bref, il sait de quoi il parle. Puis aujourd'hui, on va parler d'un sujet, j'allais dire controversé, je pense pas, je pense juste que tout le monde a son avis là-dessus, le couple.
Et Guillaume, tabarouette.
J'ai envie de te demander ce matin, pour commencer, qu'est-ce qui, selon toi, fait qu'un couple fonctionne ou fonctionne pas, en fait? Là?
Bien, premièrement, je suis content d'être là. Merci de l'invitation. Salutations à vous deux. Toujours un plaisir de parler de sujets controversés ou pas. C'est sûr que c'est quelque chose qui intéresse tout le monde, être en couple. En fait, malheureusement, de moins en moins, mais c'est quand même quelque chose qui est important. Alors, il y a plusieurs facteurs qui expliquent que le couple dure longtemps. La première chose, ce sont les buts à moyen puis à long terme. Donc, un couple qui est capable d'avoir des buts importants basés sur des motivations les plus intrinsèques possibles, c'est-à-dire pas des buts comme étant l'argent ou monétaire ou l'attention. On parle de motivation intrinsèque, c'est-à-dire quelque chose qui est vraiment important pour toi, que tu veux faire. Donc, plus des couples sont capables de créer des buts de ce style-là, plus ils sont capables de designer une vie qui va permettre de faire des choix, des sacrifices, des deuils, mettre des ressources en place, des actions en place, des changements en place pour continuer à avancer. Ça prend des buts à moyen puis à long terme. Et curieusement, il y a très peu de couples qui font ça. Les gens ont de la difficulté, même pas en couple, même pour eux-mêmes. Tu sais, tu demandes aux gens, c'est quoi tes rêves, c'est quoi tes projets d'ici, mettons, cette année, qu'est-ce qui t'emballe le plus cette année, dans 2 ans, 3 ans? Souvent, les gens, ils sont un peu confus, ils ne savent pas trop, ils cherchent, ils ont peut-être une petite vacance par-ci, par-là, mais encore là, des vacances, ça va faire partie des motivations qu'on va appeler extrinsèques. Donc, ça ne procure pas l'espèce de carburant qui permet à un couple d'aller vers l'avant. Il y a d'autres choses, et puis évidemment, il y a les traits de personnalité. Parmi les traits de personnalité qui font en sorte que les couples se séparent le plus, un des traits, ça s'appelle le neurotisme, c'est la quantité d'émotions négatives. Donc, plus les gens sont forts en neurotisme dans un couple, c'est un des meilleurs prédicteurs du fait que le couple va se laisser. Donc, les émotions négatives, c'est définitivement quelque chose qu'il faut savoir gérer parce que c'est le meilleur prédicteur des couples qui arrêtent.
Fait que si, puis je reviens au défi parce que déjà à ta première phrase, tu as vraiment capté mon attention avec ça. Un couple qui se met ensemble parce que, hey, on s'aime bien, on s'entend bien, mais qui n'aura pas nécessairement de défi ou de plan pour l'avenir. Tu sais, ils sont juste ensemble parce qu'ils s'aiment bien. Puis ça, déjà là, tu peux te dire, ouais, d'après moi, ça ne durera pas.
C'est qu'ils sont beaucoup plus sujets à ce que la vie impose un agenda de nouveautés, de compétition, de distraction qui va se mettre en travers de leur chemin, qui vont un peu être comme des vents de côté, là, si vous voulez, là, qui vont déséquilibrer la relation. Donc, la vie étant ce qu'elle est, il y a toutes sortes de tragédies qui arrivent, il y a toutes sortes de choses qu'on n'a pas prévues, on change, c'est très compétitif, on rencontre plein de gens, puis après ça, oups, on ressent des choses pour certaines personnes, puis après ça, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? C'est-tu moi, c'est quoi? C'est-tu parce que je ne suis pas avec la bonne personne? Donc, il y a une infinité de réflexions possibles et toutes ces réflexions-là vont venir ébranler le fait que suis-je avec la bonne personne? Par contre, les gens qui ont vraiment une construction solide, en faisant ça, ta relation se développe. Fait que c'est pas seulement avoir des objectifs à long terme, c'est qu'à force de faire ça, tu es fier du chemin parcouru et cette fierté-là du chemin parcouru, ça va directement être injecté dans ta relation. Puis c'est ça que tu veux garder.
Mais Guillaume, la grande question, comment tu fais pour savoir si tu es avec la bonne personne? Parce que c'est dur à dire, là. Tu sais, des fois, l'amour rend aveugle puis tu es convaincu, là.
C'est que, bon, ben c'est une très bonne question, c'est qu'il n'y en a pas de bonne personne. Il n'y a pas de bonne personne. Il y a beaucoup de bonnes personnes potentielles. Donc, déjà là, tu peux comme arrêter de te poser cette question-là. Est-ce que je suis avec la bonne personne? Tu es avec peut-être une des bonnes personnes.
J'adore ça.
Mais
Fait que c'est
mais
pas vrai la moitié de pomme, là. C'est pas vrai qu'à un moment donné,
tu vas
te...
Donc, Audrey.
Mais non, mais...
c'est bien beau dans les films, là, trouver sa moitié. Il y en a plein de moitiés pour plein d'autres moitiés, là.
Mais continue ce que tu disais, ça m'intéresse, Guillaume.
Ben, c'est ça. Il y a plein de personnes avec qui tu pourrais bien t'entendre puis faire une belle vie. Mais c'est juste que vous allez créer ensemble une vie en fonction de qui vous êtes. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est meilleure qu'une autre vie puis est meilleure qu'une autre personne. C'est juste que dans la vie, il y a un temps limité. Puis là, tu veux investir dans une croissance unique qui est ta relation. Et tu fais de cette relation-là quelque chose qui est unique et que tu chéris parce qu'elle vaut quelque chose. Parce qu'il y a eu des investissements dedans. Tu as grandi à travers ça. Tu as de l'attachement qui s'est créé à travers ça. Puis plus tu fais ça, ben plus les petites tentations sur le côté, c'est comme ça fait pas la cote, là, si on veut dire, si on peut dire. Là, c'est comme ça nous permet de résister aux interférences.
J'ai une autre question. Est-ce que c'est vrai qu'il y a le plus je pogne ça, c'est Internet, hein? Fait que je sais que ça vaut peut-être pas grand-chose, là, mais c'est vrai qu'il y a trois grands amours dans une vie? Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, mais j'ai déjà vu ça là, sur les réseaux sociaux, sur les Instagram. Tu as l'amour de jeunesse, l'amour de la vingtaine, mettons, puis l'amour qui dure pour toujours. Là. Je vais le dire de même, là, on se comprend. Là.
Ah ben, en gros, non, c'est du gros n'importe quoi. Ah. Ça,
il m'a varié mes sources.
Non, il n'y a pas de ça, là, vraiment. Là, parce qu'après ça, pour répondre à ça, il faudrait définir de quel amour parles-tu. Ouais. C'est comme juste le mot amour, là, on pourrait être là jusqu'à demain matin parce que chaque culture le définit différemment. Si tu en vas dans une autre culture, le mot amour veut dire d'autres choses. Le mot relation veut dire d'autres choses. L'engagement dit d'autres choses. Donc, le mot amour, pour moi, ça, c'est de la psychopop pure et dure là, de magazine.
Ouais, hein? Mais c'est parce qu'on dirait que ça nous joue dans la tête. T'sais, des fois, tu vois ça passer. Moi, je me souviens quand mon ancienne relation était plus chambranlante. Il y a des moments où t'écoutes du monde parler, t'écoutes des professionnels se poser sur cette question-là du couple et de l'amour, puis de la monogamie, puis toutes ces patentes-là, puis t'en viens à te comparer un peu, puis à essayer de te raisonner à travers tout ça. T'sais, on dirait que ça joue dans la tête.
Oui, puis ça joue dans la tête sur plein de choses parce que dans les médias, puis les médias sociaux, il y a toutes sortes de courants là, en ce moment qu'on entend puis qui viennent ébranler ce qu'on appelle les paradigmes classiques comme la monogamie, comme si on n'est pas fait pour la monogamie, donc c'est pour ça que je suis malheureux, alors que c'est tout le contraire. On est fait pour la monogamie. C'est ce qui augmente plus le succès dans le couple chez nos enfants, le plus de satisfaction personnelle. La monogamie a de loin l'avantage sur toutes les autres formes de structure amoureuse.
Est-ce qu'on a trop romantisé, puis je dirais pas l'amour, je veux dire les romancé. Relations. Est-ce qu'on a romancé, je m'excuse Audrey, c'est lundi matin. Est-ce qu'on a trop romancé les relations, c'est-à-dire que on dirait que pour bien du monde, à cette heure, ben là, faut que ce soit le coup de foudre immédiat, puis il faut que dès le départ, il n'y ait pas de difficultés, puis qu'on avance, puis que tout va super bien.
Tu le sens.
Exact. Puis là, j'imagine qu'éventuellement, ces gens-là frappent leur mur, puis là, ben ces gens-là se séparent. Mais à la base, est-ce qu'on devrait apprendre que, ouais, ben non, ça se peut qu'au début, ce soit pas parfait? Là.
Ben, moi, là, je vais vous avouer, je suis un très grand fan d'amour et un très grand fan de films d'amour. Okay? Et je suis un très grand fan de séries Netflix où on tombe en amour, puis là, tu vois du monde.
Je te comprends tellement.
Je dévore ça, j'adore ça parce que c'est de la psychologie qui est sous nos yeux, puis je trippe plus que ma femme. Ma femme, elle dit, là, Guillaume, t'en as-tu assez, là, de ces émissions-là? Puis je dis, ma chérie, pas du tout. J'en
as-tu
ai vraiment
vu,
pas.
As-tu vu Guillaume Nobody Wants This?
Non, pas encore.
La saison 1 est incroyable, et là, la 2 est sortie, puis j'ai hâte de le regarder, là.
Faut que tu regardes
ça. Ben,
parfait.
Parfait, je vais regarder ça. C'est sur les relations amoureuses?
Oh oui, bien en fait, c'est l'histoire d'une femme qui a un podcast avec sa sœur sur le fait que, justement, elle l'a pas pantoute, elle n'est pas en couple, elle trouve pas l'amour, il n'y a jamais rien de bon pour elle, elle date. Puis à un moment donné, elle arrive dans un party, puis t'as un rabbin, carrément. Puis évidemment, il y a des défis reliés à tout ça. Il y a des défis religieux, culturels. Puis honnêtement, c'est drôle, c'est sympathique. Moi, j'ai l'impression que c'est le genre de série que tu peux écouter en couple qui est pas trop quétaine, mais qui fait réfléchir. Il y a vraiment quelque chose, là.
OK, bon, ben c'est noté. Je vais aller me faire du fun, là, c'est clair.
Back on track, je te laisse revenir à la question de Max.
C'était quoi ma question? Ah, oh, roman. Puis c'était le bon mot en passant, Audrey, romantiser. Tu m'as chicané, là. Mais romantiser dans cette phrase-là était le bon mot.
Parfait.
Alors, l'amour, quand le sentiment amoureux, il n'y a rien de plus fort que ça sur la planète, là. Tu sais, dans toute l'existence des drogues possibles. Puis j'inclus ça dans la drogue. Être en amour, c'est ta drogue numéro un. On est fait pour vivre ça. Est-ce que je vais m'opposer à ça? Absolument pas. Je souhaite à tout le monde de tomber en amour par-dessus tête. Mais il faut être conscient que l'amour, ce n'est pas une relation. Ça n'a rien à voir. Donc, si tu es en amour, c'est super. Mais pendant que tu surfes sur cette vague-là, j'espère que tu vas utiliser la vague pour construire les bases de ta relation. Mmh. Parce que l'amour, tu ne vas pas la ressentir de la même façon éternellement. Mais l'attachement et la relation et l'intimité, ça doit augmenter. Et c'est ça qui doit prendre la place de l'amour. Maintenant, la question, c'est OK, ouais, l'intimité, c'est quoi? C'est là où tout le travail se joue, l'intimité, et c'est là où ça prend beaucoup de psycho, beaucoup d'habileté de communication, beaucoup de défis, beaucoup de capacité à se parler de choses difficiles, entre autres, dire la vérité, ce qui est un concept maintenant complètement farfelu. Dire la vérité, c'est très, très difficile. Donc, il faut que tu t'habitues, tu te pratiques à te la dire à toi-même, puis après ça, il faut que tu réussisses à la dire à l'autre personne. Puis là, il va s'en suivre des inconforts, puis des défis. Mais la résultante de ça, c'est de l'engagement et c'est de l'intimité. Et ça, les gens sont maintenant phobiques à ça. C'est pourquoi qu'on est obsédé par l'amour, comme si l'amour était un gage de continuité à long terme. Donc, on se dit, je ne sais pas comment vraiment développer l'intimité. J'ai peur des conversations, j'ai peur des émotions négatives, j'ai honte. Donc, on va surfer et mettre tout mon accent sur l'amour. Donc, ça rend la chose disproportionnée et qui rend les gens tous déçus et désillusionnés un peu.
Parlons peut-être de critères de sélection. Qu'est-ce qui guide nos choix amoureux? Est-ce que quand on choisit quelqu'un, c'est la raison, les émotions, la biologie? Comment ça s'explique?
C'est que c'est à moitié, c'est la personne non, pour toi, Audrey.
Hey.
Ben, il y a plusieurs choses qui nous attirent chez quelqu'un. C'est sûr que l'attirance sexuelle, la dimension de la physicalité, c'est la première chose parce que on est des animaux qui ont un cortex visuel hyper développé, puis c'est notre façon de sélectionner notre environnement parce qu'il y a 9 milliards de personnes sur la Terre, ça te prend comme une façon de sélectionner ton approche initiale. Donc, mettons, là, tu vois 500 personnes par jour, bien là, comment tu fais? Mais ça te prend un coup de pouce neurobiologique qui te permet de dire, oh, regarde, cette personne-là a des caractéristiques qui m'attirent, donc ça te fait une présélection, donc ce qui implique une exclusion, c'est une sélection. C'est une exclusion de ceux qui ne font pas le critère minimal. Puis là, après ça, tu pars de là et après ça, ben, l'objectif, c'est de découvrir ce qu'on a en commun, c'est-à-dire qui suis-je, qui tu es, qu'est-ce qu'on a en commun. Et si on partage des choses en commun, on va extrapoler sur le fait qu'il y a des fortes chances qu'on vise des choses en commun. Et le début de la mise en place des buts en commun, puis quel genre de vie on pourrait créer, c'est là que ça débute réellement.
OK. Sous-question. Est-ce que nos critères évoluent avec l'âge ou l'expérience, là, peu importe, puis pourquoi on est attiré parfois par des gens qui ne nous conviennent pas? Là? Moi, je pense à la petite Audrey qui était tout le temps attirée par des trous de cul. Faut-moi pourquoi. Là. Puis ça arrive souvent. Là, le syndrome Mère Teresa, mettons, là, chez beaucoup de jeunes femmes, ça arrive. Pourquoi, si on est censé vouloir bâtir quelque chose avec quelqu'un de façon animale?
C'est une grande question. Je dirais que la première chose qui me saute, qui me vient à l'esprit quand je t'écoute, c'est que plus les femmes sont jeunes et inexpérimentées, vont aller vers, entre guillemets, vers les bad boys. Les bad boys ont une caractéristique de trois caractéristiques. Ils ont le narcissisme, le machiavélisme et sociopathie. Donc, ces trois caractéristiques-là font en sorte que ces hommes-là sont capables de feindre des qualités d'hommes compétents. Donc, en fait, ce qu'une femme cherche, c'est un homme qui est compétent, qui est capable ou qui a le potentiel de faire des choses. Mais les bad boys ne sont pas des hommes compétents. Donc, ils ont appris à mimer ou faire semblant ou démontrer des signes qui laissent croire qu'ils sont des hommes compétents. Comme par exemple, un haut statut hiérarchique est corrélé à l'attention sociale. Donc, à place d'avoir un statut hiérarchique relié à la compétence, qui est beaucoup, beaucoup de troubles, qui est très, très difficile parce que c'est très compétitif, ben, un homme peut manipuler l'environnement pour avoir tout simplement l'attention sociale, ce qui donne l'illusion qu'il est en position de compétence. Donc, ça va être très attirant, ça, parce que c'est corrélé à la compétence, puis à un homme qui est compétent, qui est capable de faire des choses. Alors que dans la réalité, c'est seulement une manipulation de l'environnement. Donc, ça, c'est une des caractéristiques du bad boy, du narcissisme. L'autre, le machiavélisme, c'est la capacité d'être habile, de dire des choses que tu veux entendre, de créer les histoires que tu veux entendre, de te donner et faire sentir les choses dont tu as besoin dans l'instant présent, mais qui ne représentent pas le fonctionnement réel de la personne. Donc, ça fait partie des erreurs que des jeunes femmes font, c'est-à-dire ils tombent entre les mains d'hommes qui ont la triade noire, et les femmes plus vieilles tombent moins facilement dans ce piège-là parce que justement ils ont goûté, ils savent c'est quoi et ils ont appris à différencier un homme réellement compétent d'un homme qui démontre la triade noire. Donc, ce serait quelque chose, par exemple, qu'on devrait enseigner aux jeunes femmes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un homme bon, comment différencier la triade noire de la réelle compétence. Ça devrait être enseigné dans le système dans lequel on est en ce moment. On n'est pas prêt d'arriver à ça. On est carrément des hommes, c'est de la masculinité toxique, alors que c'est pas vraiment ça que tu cherches. C'est une masculinité, oui, mais qui est compétente et qui est positive. Donc, il faut apprendre les caractéristiques qui permettent de différencier une masculinité qui est positive versus une masculinité qu'on va dire, entre guillemets, toxique, mais elle a un nom, ça s'appelle la triade noire.
Est-ce que, et la grande question, est-ce que l'être humain, en vieillissant, peut porter moins d'importance à l'attirance physique? Parce que moi, quand j'entends quelqu'un, puis dans mon cas, je vais dire la femme, mais je pense que c'est bon dans les deux cas, là, fait que je vais dire quelqu'un. Quand j'entends quelqu'un dire, ouais, moi, dans une relation, c'est pas ça qui m'intéresse, je peux être attiré par quelqu'un qui est pas de mon goût physiquement parce que sa personnalité me plaît, moi, j'ai le goût de dire bullshit, là. Je pense pas que quelqu'un va se mettre en relation avec quelqu'un qui lui plaît pas physiquement. Puis tantôt, t'as commencé ta réponse en parlant justement de l'attirance physique. Je suis dans le champ de dire que c'est absolument de la bullshit, quelqu'un qui dit que le physique, ça ne l'intéresse pas.
T'es un peu dans le champ, pas
Ben.
100% dans le champ, un peu dans le champ. C'est-à-dire que la majorité des gens ont un critère de sélection préalable ou initial qui est basé sur la physicalité. Encore une fois, ça dépend de l'âge beaucoup. Plus tu es jeune, plus tu vas mettre un emphase et plus tu vas être sévère sur tes caractéristiques que tu cherches. Plus tu avances en âge, plus les caractéristiques s'assouplissent. C'est-à-dire, c'est moins important d'avoir toutes les caractéristiques. Donc, plus on est dans l'âge de la reproduction et avant, plus les caractéristiques sont sévères. Plus la pression de reproduction passe, plus les caractéristiques sont, je dirais, plus détendues. Il y a des personnes également qui sont moins impressionnables par l'attirance physique, puis c'est moins important pour eux. Donc, il y a des personnes qu'ils se passeraient très volontiers de sexualité, mais ils doivent être comblés à bien, bien d'autres niveaux. Puis, il y a des couples qui font le sacrifice de la sexualité, mais leur relation, ils y tiennent tellement que la sexualité vaut pas si cher que ça dans le lot total. C'est pas une majorité, mais ça existe
Pas
tout
tout le
à
monde
fait.
qui a la même libido non plus, faut le dire. Il y a des gens qui se retrouvent puis que c'est pas une nécessité, là. Ils ressentent pas ce besoin-là. Probablement que ça aide aussi, là.
Oui, exactement. Si par exemple, tu as une libido qui est moins forte, mais tu as une ouverture qui est très élevée, tu as déjà beaucoup de passe-temps, d'intérêts en commun, tu as une belle communication, tu as l'humour, tu partages l'humour ensemble, tu as des projets. La sexualité, ça prend moins de place, okay, pour ces couples-là.
Les prochaines questions que j'ai envie de te poser, Guillaume, sont un peu dirigées pour, j'allais dire les célibataires, mais des fois, tu es dans une relation, tu les ignores aussi. Les fameux red flags, les signaux, là, peut-être qu'on met de côté de temps en temps, tu sais, disent l'amour rend aveugle. C'est quoi les signaux d'alerte qu'on néglige souvent au début d'une relation?
Ben, moi, je vais te dire des signaux que je comprends pas vraiment pourquoi, mais ils sont vraiment, vraiment fondamentaux et on devrait en parler beaucoup plus, c'est-à-dire la stabilité de l'attention. Si tu parles avec une personne et tu sens que son attention est instable, c'est un énorme drapeau rouge immédiatement. Parce que l'attention, c'est très sensible et varie en fonction de un paquet de distracteurs internes ou externes. Donc, moindrement que tu es distrait, ton cerveau vient t'amener une petite pensée ou une petite émotion, peut déstabiliser ton attention. Alors, l'attention, c'est vraiment important parce que c'est la base de ce qui permet de créer de la relation de confiance ou de la vulnérabilité. Donc, si tu es avec une personne, puis là, mettons, tu parles de toi, ça veut dire que ton indice de vulnérabilité va augmenter. Ton cerveau va vérifier si tu as l'attention totale de l'autre. Et si tu sens que tu as une attention divisée de l'autre personne, automatiquement, ton cerveau calcule qu'il doit diminuer la vulnérabilité en fonction d'un niveau sécuritaire. Donc, c'est automatiquement ton plafond relationnel. Fait que la stabilité d'attention et le niveau d'écoute, c'est la première chose que je regarde, je dirais, dans les 5 premières secondes, 10 premières secondes.
Hey, mon Dieu, c'est fort ça quand même, là. Comment on fait la différence dans une relation entre une difficulté, je vais dire normale, ou un vrai red flag?
Tu veux dire un vrai problème de couple versus comme un problème chez la personne?
Ben, ouais, mais j'aurais plus dit, tu sais, on dit souvent les signaux, les
Un
red.
signaux, je sac mon camp, ou un signaux, on travaille là-dessus.
C'est bien dit. Un
OK, ben,
signal.
moi, en premier lieu, je suis toujours pour relation. Donc, moi, je suis jamais de l'avis de vite sauvons-nous. C'est comme non, avant de te sauver, il faut que tu sois sûr que les choses ont été tentées en bonne et due forme et qu'on a les réponses qu'on a à avoir. Donc, s'il y a un problème, peu importe, ça prend des habiletés de com pour l'adresser. Puis après ça, il faut regarder comment la personne reçoit ça. Avec ouverture, avec curiosité, puis est-ce qu'on est capable d'explorer le sujet? Donc, je dirais, ça, c'est la première affaire. S'il y a un bug, êtes-vous capable de vous écouter, de le dire et d'explorer le sujet jusqu'à ce que les deux, on se comprenne à 100% sur ce qui se passe là, en ce moment? Et après ça, l'autre doit faire un peu le miroir, la même chose, c'est-à-dire comment il vit ce phénomène-là dans sa peau. Et la même chose, l'autre personne doit avoir suffisamment d'écoute et curiosité pour explorer l'enjeu. Puis après ça, on est capable de dire, OK, maintenant on voit plus clair, maintenant qu'est-ce qu'on veut faire? Et là, c'est tout le design, ce qu'on appelle le design d'une solution. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on veut continuer de faire? Quels sont les comportements qu'on veut arrêter? Quels moyens on se donne? Puis quel plan de match on se met? On se met là. Fait que ça, idéalement, c'est ça que tu veux. Mais ça prend beaucoup d'ingrédients pour réussir ça. Puis il y a des gens qui sont même pas capables d'aller à l'étape 2. Fait que si on se rend compte qu'il n'y a même pas d'intérêt à écouter l'enjeu, je dirais ça, c'est un red flag majeur. On peut même pas passer à travers le sujet.
Je pense que Guillaume, tu l'as sûrement senti à travers nos discussions. Moi, je suis une fille d'amour avec un grand A. Je suis une grande rêveuse. Puis il y a
Ouais.
des gens qui sont plus terre à terre, pour qui l'amour, c'est un choix justement sur lequel tu travailles ad vitam aeternam jusqu'à la fin de tes jours. J'aime le doux mélange de ça, mais pour moi, les émotions, les sentiments, l'attirance, les petits papillons, pour moi, c'est quelque chose qui s'entretient puis qui doit être présent. Ma question va un peu comme suit. Est-ce que tu t'en vas quand tu le ressens plus, ça, ou ça peut revenir? T'sais, tu dis que tu es pro-relation, fait que j'entends que probablement c'est un travail qui est continuel, mais à un moment donné, si en dedans, si la tête et le cœur se séparent, pour moi, c'est qu'il y a peut-être un problème.
Moi, je suis d'accord avec toi. Si la tête puis le cœur se séparent, il y a un problème. Donc, tu dois, encore une fois, c'est une question de terminologie. Les papillons, non. Mais le fait de sentir dans ton cœur, dans ton estomac, que cette personne-là, elle te manque quand elle n'est pas là, puis qu'elle est importante pour toi, c'est pas des papillons, ça. C'est un autre niveau qu'on appelle de l'attachement. Les papillons, ça ne représente pas l'attachement. Donc, les papillons, au début, c'est une chose, c'est de l'excitation. C'est où on ne sait pas ce qui va se passer. Ça, c'est excitant. Il y a quelque chose qui est très sexuel là-dedans. Mais ça peut être remplacé par un attachement qui fait en sorte que tu aimes la personne pour ce qu'elle est, puis tu t'en passerais pas. Puis quand tu penses à elle, tu souris. Donc, ça, c'est pas des papillons, mais ça vaut aussi cher, sinon plus cher. Tu sais, tu me demanderais, est-ce que je remplacerais les papillons que j'ai pour ma femme? pour la relation que j'ai là, jamais de la vie, j'aime bien mieux tout ce que,
Ouais.
toute la puissance puis la densité des émotions que j'ai pour elle. C'est ça que je veux. Les papillons, j'en veux plus du tout, là. Ça m'intéresse pas, là. Je veux ce que j'ai de profond avec elle, qui me fait sourire à chaque fois que je pense à elle.
C'est bien beau,
Oui,
ça.
c'est beau.
Hey, Guillaume, en terminant, quoi que tu y réponds un peu, mais souvent j'ai l'impression que c'est la question que les gens se posent. Est-ce que le couple, c'est censé être facile ou c'est toujours un travail?
C'est toujours un travail.
Bon, on
C'est
est
tout.
une gang à se mettre à la planche en dessin, hein?
C'est comme si la vie est un travail pour soi, ça veut dire que la vie est un travail pour deux.
C'est bon, ça.
Il n'y aura pas de facilité. La vie ne t'attend pas avec des fleurs à terre. La vie, c'est constamment des résolutions de problèmes pour toi. Et par conséquent, ça va l'être à deux. Si tu acceptes ça et tu t'équipes pour faire face à ça, tu vas avoir une belle, belle ride, puis ça va être bien intéressant.
C'était vraiment intéressant, Guillaume. Merci d'avoir pris le temps ce matin. Guillaume Duluth, qui est docteur en neuropsychologie, qui étudie, qui pratique, qui enseigne toute l'équipe de la psychologie et fondateur de Psycom aussi. On s'en jase la semaine prochaine.
Avec grand plaisir. Bonne journée, vous deux.
Salut,
Salut,
bonne semaine,
Guillaume.
Guillaume. Merci.
Bye-bye.
Merci, Audrey. Ah, un beau sujet, l'amour, hein?
Mais je trouve ça toujours intéressant parce que c'est comme un sujet qui ne s'épuise pas. Chaque fois qu'on l'effleure d'une façon ou d'une autre, les gens se sentent, veulent pas, interpellés. On le vit tout à différents niveaux. Fait que je trouve ça super intéressant. On pourra peut-être faire une partie 2 dans une couple de mois, là, si vous avez des affaires à dire.
En attendant, le Canada au grand complet est en amour avec ses Blue Jays. C'est une folie baseball comme j'en ai jamais vu de ma vie jusqu'à maintenant. On en jase au retour de la pause avec coach Gilbert. Également, pas le choix de parler de cette controverse de gardien de but à Montréal parce que oui, on est amoureux avec ça aussi, les fans du Canadien. Et Pascal Cévé, qu'on aime beaucoup également, va venir faire son tour. Vous écoutez le Point de Max à Boulevard. Il est 11h33.
Le Point de Max.